podcast.com. Essaye ça.
Oh là 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 là, quelle aventure, mesdames et messieurs. Bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Mon nom est Tommy Godette, et comme un peu à chaque aventure, on va y arriver. Je suis accompagné de Jason Keys. Bonsoir, Jason.
Hey, grosse soirée hier, Tommy.
Ouais, on a fait une pratique de party, puis c'est ça. C'est
gros. Ça va promettre pour ce soir.
Oui, à soir, ça va brosser, ici. On a aussi Joe, hein? Salut, Sia du Gautier.
Bonjour à tous.
Puis, parle-moi de ça, là. C'est quoi la trame sonore qu'on entend?
Ben, aujourd'hui, notre trame sonore, je suis tombé là-dessus. C'est un. C'est Veil de Cannes. Ils ont fait un album de prog rock assez prometteur en 2018. Puis, je sais pas s'ils jouent à Magic, mais j'ai dit qu'ils sont un peu geeks. Parce que deux ans plus tard, ils ont refait le même album, mais en chiptune 8 bits.
Du 8 bits c'est... dans vos oreilles.
Ouais,
c'est concept. Ça.
Normalement, quand j'entends les affaires de même, c'est quelqu'un sur YouTube qui pogne comme un album classique, comme Dookie de Green Day qui l'a refait en 8 bits. Mais non, là, c'est vraiment l'artiste original qui a refait son propre album.
Ah ben.
Bon, ben, vous irez voir le lien si vous êtes rendu curieux par la chose. Et il y a Andy Jacques de la Jacques Nation qui vient de nous rejoindre. Salut, mec.
Ça va?
Ah, écoute...
Pas mal tôt. c'est tôt.
Ouais, c'est ça. J'ai pas dormi tant que ça, là, mais je serais content de vous rejoindre pour continuer le gros lore gras de Dominaria et de la saga d'Urza, si j'ai bien compris.
Exactement, mais j'ai décidé que, vu que ça pognait pas ben nos histoires, là, désormais, on va faire seulement du box opening de Booster.
Ah, OK, c'est bon.
Fait que Terrain Basique, à partir d'aujourd'hui, ne consiste qu'en Tommy qui ouvre le Booster.
Puis et qui gueule comme... Oh! Wow!
Wow! Je savais pas qu'il y avait cette carte-là dans ce set-là!
En out! Foil!
Foil! Oh!
Foil!
Ça va être quoi la prochaine, Tommy? Ça va être quoi? Oh my god! Il y a pas
It's a foil!
It's a foil! Donc oui, ça va être ça, Terrain Basique maintenant. Ça va être du box opening. Ben non. Parce que.
Hein? On montre pas les cartes, on juste comme des reaction vidéos.
Des reaction vidéos.
Ah, de gens qui ouvrent des boîtes, j'aime ça.
Ouais, ça serait pas pire, ça serait pas pire. Écoute, on essaie de se réinventer. Non, je voulais glisser un petit mot parce qu'on a commencé à avoir des spoilers de Dominaria United qui sort au mois de septembre.
Mais est-ce qu'il va être vraiment United dominant?
Je pense que, écoute, c'est sûr que Karn est sur le booster, ça veut dire qu'on va encore voir Karn. Hein?
Puis qu'est-ce qui va être United? C'est-tu les Phérixiens qui vont réussir à le rendre United ou ça va être les bons?
Je pense que ça va être pas mal vers ça que ça s'enligne. Tourne-nous la page, Tommy, s'il te plaît.
Avec plaisir.
J'ai un peu peur, là. Ça veut dire que écoute, les Phérixiens veulent United Dominaria.
Et je pense que c'est Dominaria qui se... Oups, je pense que t'as skippé. Tu skippé un? Ça se peut-tu?
Non.
OK, non, c'est ça. Fait que, écoute, on a les retours des classiques. Hein? Le Llanowar Elf, c'est maintenant le Llanowar Loam Speaker. Hein, qu'on le laisse un vert pour un 1-3.
Tabarnak, hein?
Qui
il
fait
comme...
un mana d'une seule... De la couleur que tu veux. On voit un peu le power creep là, dans Magic. On est bien loin du 1-1 qui fait un mana vert. Et tu peux le taper pour transformer un land en 3-3 élémental avec Ace and Tilling of Turn. C'est sûr qu'on retourne sur la noire. C'est la forêt typique de Dominaria avec Yavimaya qu'on a déjà parlé. J'aime bien dans le flavor text là, qui dit là, lis-nous le flavor text, Tommy.
Ah oui, twigs broken underfoot in Llanowar tend to return the favor.
Ça veut dire que si t'écrases la forêt, on va te casser la gueule. Ça, c'est
la face.
Nos bons vieux elfes racistes, comme on les aime.
On va se revancher.
Passe à la suivante.
Ben oui.
Et il va avoir les retours aussi de héros légendaires et surtout de la Phyrexie. C'est pas pour rien que je vous ai autant cassé les oreilles avec les Sleeper Agents dans les derniers épisodes. Ils sont de retour dans Dominaria United parce que c'est la trame continue, là, commencée dans Kaldheim, dans Kamigawa, Neon Dynasty et... c'était quoi l'autre? C'était les Street of New Capenna. Cette fois-ci, le Phyrexien qui va sur Dominaria, c'est Sheoldred, le Praetor Noir. Et on présume là, qu'il utilise encore le concept des Sleeper Agents. Hein? Evolve Sleeper pour un noir, un Human 1-1, qui a trois modes différents. Là, c'est vraiment fort. Tu peux payer un noir, il devient un Human Cleric 2-2.
Oh,
tu peux payer deux, il devient un Phyrexian Human. Tu vois, il est plus un Sleeper Agent, il se transforme en Phyrexian. 3-3, et tu peux payer 3, il devient un Phyrexian avec un +1/+1 counter dessus. Puis tu piges une carte et tu perds une vie.
Ça a l'air de rien, mais si t'as 7 mana noirs, tu peux tout faire ça d'un coup.
Oui, mais généralement, c'est que tu vas y aller lentement, mais tu sais, il vient de plus en plus gros là, dès que tu l'as mis le tour 1. J'aime bien l'aspect que ça présente. Tu sais, les Sleeper Agents, au début, tu penses que c'est un humain normal, mais en réalité, à l'intérieur, c'est une machine. Mais c'est ça que la carte te représente.
Vas-y. Petite question de même. Un, je préfère comme que ça c'est des Sleeper Cleric, là, l'affaire des tritons, je me souviens plus c'est quoi la nomenclature qu'il avait dit dans le temps pour expliquer les différents les différents termes des Phyrexiens à l'époque. Ça, je trouve que c'est un petit peu plus évocateur, mais ma question, d'un point de vue plus technique, trouves-tu ça plus simple, différent ou meilleur comparativement à la façon qu'ils présentaient les level up? Avec comme les trois level 1.
Ouais, level que tu parles qu'il y avait les level up, ben c'est la même chose en fait.
C'est la même chose.
C'est la même chose, mais.
Sur une créature au lieu que ça soit sur un enchantement.
Non, mais avant c'était les level ups, je parle pas les sagas, là. C'est que back in the days, ils avaient fait des créatures qui avaient des level up. Okay. Mais c'était plus. Les joueurs comprenaient pas trop comment ça marche. Ça, c'est vraiment plus simple. C'est pas la première fois qu'on a. Il y en a dans Fate Reforged puis dans Kaldheim, des comme ça. Mais moi en fait, je trouve. Moi ça m'agace un peu là, parce que je commence à être un petit peu tanné des créatures qui font 80 affaires. Je trouve que ça fait un jeu qui est beaucoup plus axé sur les créatures et moins sur les spells. C'est un peu ça qu'on va aborder un peu plus loin dans l'épisode aujourd'hui. Et bon, on a le retour du Shivan Dragon sous le nom de Shivan Devastator, qui est comme une genre de Fireball X, un rouge, un 0-0 Flying Haste, un Hydre Dragon qui rentre sur Battlefield avec X Counter +1/+1. Lis-nous le flavor text, Tommy.
There were many reasons why Shiv was not high on Sheldred's list of places to conquer. Big, fiery reasons.
Mais c'est quand même bon, ça. Je veux dire, c'est un plus...
Ouais, c'est très fort.
C'est très fort.
Ça touche. Je suis sûr que ça fait plaisir à Tommy parce que c'est un gros Ghidorah dans Magic.
Ouais. Puis, je veux dire, Rorix Bladewing qui coûtait 3 rouges, 3 colorless, puis qui était... 6-5 Flying Haste, il ne sert plus à rien.
Non, mais il peut, l'affaire, c'est que Rorix peut être ton commandant pour ton pis avoir Shivan dans ta
contre. Ouais,
mais dans, ça, faut que tu joues à Commander.
Dans un monde de Commander, tout devient plus plat et long. Hein.
On passe au suivant. On a le retour de nos Planeswalkers. Hein. C'est, je pense que les United, ça va être le Gatewatch qui ramasse les Dominariens et dire faut repousser la menace. Phyrexienne. Donc, on a le retour de Jaya, la mentor de Chandra, en Planeswalker. Hein, puis je l'aime qu'ils l'ont mis aussi sur la carte Temporal Firestorm, qui est un sorcery rouge qui a kicker soit en blanc, soit en bleu. Ça fait référence aux 7 invasions là, qui étaient comme multicolore dans les textes des cartes. Tu choisis X créatures ou Planeswalker que tu contrôles. Quand X, c'est le nombre de fois que tu as fait le kicker. Les permanents, ils phase out. Fait que là, on comprend que c'est le pouvoir de Teferi qu'on voit en arrière sur le heart. Hein. Teferi capable de manipuler le temps. Et ça fait aussi 5 dégâts à chaque créature et 5 Planeswalkers. Dans le fond, tu comprends que...
C'est comme un combo, genre, dans une carte.
Là. Tu sauves tes cartes, tes créatures, toi, disparaissent. Tu fais 5 de dégâts à toutes et ils reviennent à ton prochain untap step.
C'est vraiment cool. Ouais. Je trouve que le concept est cool.
C'est pour ça que je l'ai mis. Je trouve ça vraiment nice. Puis le artwork est awesome. Ouais, on voit Chandra qui envoie du feu partout.
C'est un story spotlight en plus en bas.
J'aime ça. T'as comme le multi kicker qui fit avec le art puis les mécaniques.
Et les mécaniques. On voit en arrière le Teferi là, qui fait son phase out là, de tout autour. Les alliés. En fait, c'est ce que tu vois, c'est la suite. Parce que la carte à gauche, le Jaya Fury Negotiator, la négociateur en feu. 2 colorless, 2 rouges. Son +1, tu fais un monk, un 1. On se rappelle dans le storyline de Jaya, elle avait une espèce de monastère de pyromanciens. Hein. C'est de là que viennent notamment les fameux pyromancers. Son -1, tu exiles les 2 premières cartes de ta librairie, puis t'en choisis une, tu peux la jouer ce tour-ci. Ça, c'est un bon vieux light up the stage. -2, une créature que ton adversaire contrôle. À chaque fois que tu attaques ce tour-ci, Jaya Negotiator va y faire du dégât égal au nombre de créatures qui attaquent.
Yes, hein?
Puis son -8, t'as un emblème que chaque fois que tu casses un instant rouge ou un sorcery, tu le copies deux fois. et tu choisis des nouveaux targets. C'est vraiment fort. Ouais. Mais moi, ce que je porte attention au artwork, c'est que derrière Jaya, vous voyez, c'est... Es-tu capable, Tommy et Jonathan, d'essayer d'identifier c'est quoi la gang de femmes musclées avec des grosses épées en arrière à la peau bleue qu'on voit?
Ben, c'est pas les
Ouais, tu en as déjà parlé.
Ouais, c'est
là.
Les Keldon.
C'est les Keldon.
C'est les Keldon transformés, les Keldon qu'on avait parlé, là, qui sont modifiés par les...
Par le machin que je m'en rappelle plus du nom.
Ouais, fait que c'est une armée de Keldon qui a la ramassé, on imagine, pour aller péter la gueule aux Phyrexiens. Fait que sur Temporal Firestorm, ce que Teferi fait, c'est qu'il fait disparaître l'armée de Keldon qui est derrière Jaya.
Fait exploser.
Là, fait exploser tout. Et ensuite, les Keldon reviennent, et j'imagine c'est comme ça qu'ils vont gagner la bataille. On verra. On peut passer à la suivante, Tommy.
Impressionnant.
J'ai
quand c'était cette là donc?
Le pre-release est le 9 septembre, je crois, ou le 1er septembre. Moi, j'ai l'intention de le faire le pre-release d'un magasin. Et dans deux semaines, on va commencer les spoilers avec Emmanuel. Tous les spoilers de j'essayais de me rendre, de faire tout le vieux Dominaria avant d'arriver à Dominaria United.
C'est plus compliqué.
J'ai pas réussi, c'est beaucoup trop. Trop gras, il y a beaucoup trop de stock. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié un aspect vraiment important. Parce que tu sais, parle, puis des fois, tu oublies des affaires. Vous vous souvenez sûrement que j'avais beaucoup parlé de Xantcha et Urza. C'est quand Urza, il va sur la Phyrexie, il s'allie une Sleeper Agent qui est défectueuse, il la tourne contre les Phyrexiens. Et tu sais, la carte Ill-Gotten Gain, on voyait qu'elle volait le Earthstone, qui est une espèce de cœur artefact. Et il la ramenait avec lui sur Dominaria. Le problème, c'est que on se rappelle aussi, il s'était réfugié sur le plan de Serra, et à cause d'elle, les Phyrexiens avaient infiltré le plan de Serra. On se rappelle de tout ça. Hein? Ouais. J'avais oublié, en fait, de finir cette loupe-là, de dire qu'est-ce qui arrive de Xantcha. Ouais. Puis c'est un oubli vraiment niaiseux, parce que c'est quand même un des pans les plus importants de l'histoire d'Urza. C'est que à un moment donné, Urza et Xantcha se rendent compte que Xantcha, dans sa forme actuelle, elle a atteint la limite là, de ce qu'elle était capable de faire pour combattre les Phyrexiens. Elle décide de passer au stade suivant. Fait que ce que Urza fait, c'est qu'il prend le pas d'arme de Xantcha, il le met dans Karn. Le Earthstone, et ça devient le cœur de Karn.
Wow, fait que Xantcha et Karn.
Oui, le cœur de Karn, son humanité, si je peux me permettre le terme, c'est le Xantcha qui est enfermé dans le Earthstone à l'intérieur de lui. Ce n'est pas ce qui fait le spark de Karn. On va voir dans des épisodes futurs comment Karn gagne son spark. Mais je me trouve vraiment niaiseux d'avoir oublié de mentionner dans notre épisode sur Tolaria que Karn est bâti avec Xantcha à l'intérieur. Ce qui est très majeur.
Il y a de la technologie phyrexienne dans Karn, dans le fond.
Oui, exactement. Fait que, t'sais, ça peut aller dans plein de mauvais sens, comme on
dit. I know, right?
Wow! Qu'on passe au prochain?
Ben oui.
C'est geek, ça.
Ouais, ça, c'est vraiment geek. La photo que vous voyez à l'écran, c'est Wizard of the Coast
en
93. On voit Richard Garfield qui a la chemise blanche et Peter Atkinson juste à gauche avec le gros front. Ouais, ça, c'est le président de Wizard of the Coast. Là, ce que je vais vous demander aujourd'hui, ça va peut-être vous mélanger un petit peu, mais on va reculer dans le temps.
Non.
Je pensais skipper le Ice Age.
Ah.
Je pensais skipper le Ice Age. Fait que c'est pour ça que, tu sais, nos quatre derniers épisodes, j'avais à peine mentionné le Ice Age. Je me suis rendu compte que c'était une erreur. Tu peux pas comprendre Dominaria United, puis l'autre, puis les prochains pans d'histoire qu'on va voir, si j'ai pas passé par le Ice Age.
Ben, c'est ça qu'on parle aujourd'hui.
Fait que aujourd'hui, ça va être un épisode totalement centré sur le Ice Age.
Okay.
Puis un aspect pourquoi je veux mentionner le Ice Age, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Sleeper Agent, là, qu'il y avait trop de mécanique. Là.
Mm-hmm.
Ce qui est important de comprendre du set Ice Age, tout le monde se rappelle Ice Age, je te dis Ice Age.
Pense que la plupart des gens ont commencé à jouer avec le Ice Age.
Ouais, je pense aussi. Moi, j'ai commencé avec Ice Age. Toi, Jonathan, ça te fait penser à quoi, Ice Age?
Les Snow Covered Land.
Bon, ouais, ça, c'est sûr, là, les Snow Covered Land.
Honnêtement, la carte que j'ai joué le plus quand je commençais à jouer, c'était Baldovian Horde. Fait que je pense que c'est Alliance.
Ouais, mais c'est dans le même storyline.
Je me rappelle des artefacts weird, genre comme les Joker artefacts.
Ouais. Écoute, faut comprendre, Ice Age est probablement un des sets les plus importants dans l'histoire de Magic. C'est probablement ce qui a permis à Magic
de pas mourir.
Et pas pour une raison qu'on pense. Ice Age est sorti en juin 95, mais en réalité, ça a été conçu avant même que Magic se fait imprimer.
Impossible.
C'est les copains de Richard Garfield à l'université, là, qui étaient les playtesters du Magic original, ils trouvaient, à un moment donné, ils ont tellement joué à Magic, on est avant que Magic soit publié. Là. Ils ont commencé à trouver ça plate à un moment donné. Puis là, on est à l'époque que t'as le droit d'avoir autant de copies que tu veux dans ton deck de la même carte. Et eux se sont dit, on commence à trouver ça un peu
redondant
de caster mon Force of Nature, ma Shivan Dragon. Un concept vraiment important que Scaphelias, qui était le leader de cette gang-là, qui s'est dit qu'ils se sont dit, nous, on va refaire Magic, ça va être la deuxième édition de Magic, mais on va prendre une direction totalement différente, qui est en fait ce qui rend le truc le fun à Magic. Skip-nous de... Voilà, pas la prochaine, l'autre juste après. C'est là qu'ils ont notamment inventé le concept de cantrip. Le concept de cantrip, là, c'est vraiment simple, c'est tu casses un spell qui est pas vraiment fort et tu piges une carte. À l'époque, ils trouvaient ça trop fort. Ils avaient fait que tu piges ta carte à ton prochain upkeep. Ça vient de Ice Age. Mm. C'est un concept vraiment important parce que eux, ils se sont rendu compte que ce qui était le fun à Magic, selon eux, là, c'était les petites affaires. Là. Le fait de pouvoir stacker ton deck pour les trois prochains tours avec du Scry. Ça, c'est notamment Porten qui est dans Ice Age. Le fait de ton spell qui fait pas grand-chose, il va se remplacer lui-même. Le fait, tu sais, Brainstorm, au lieu de piger trois cartes, c'est que tu piges trois cartes, t'en remets deux sur le top de la bibliothèque. Ouais. C'était des affaires que les joueurs, à l'époque, auraient probablement dit comme, ben, c'est donc ben poche. Puis on se rappelle, nous, quand on avait 12 ans, je pense que vous aviez probablement cette réaction-là aussi. Pourquoi je jouerais ça? C'est pas très...
Ben, quand moi, je jouais au début du secondaire, la synchronicité entre les cartes était... C'est pas quelque chose que tu vois venir. Là. Tu fais que ben, ça fait plus une carte. Pourquoi je ferais ça? Je vais mettre mon Shivan Dragon.
Ouais, tu vas faire un Lightning Bolt.
Tu vas faire un fucking Lightning Bolt, man. C'est comme, tiens, ton Hate Bear, il est mort.
Ouais.
L'autre affaire, je sais pas si c'est à cette époque-là, là, c'est loin. Pis,
vas-y.
C'est toi le Sphinx. J'ai le feeling que c'est au bout où ce que. Puis on le voit de plus en plus aujourd'hui avec les board games qui ont explosé. Où ce que. Normalement, au début, t'as toujours juste le battlefield, la zone principale où tu mets tes permanents. Puis, au fur et à mesure qu'un jeu évolue ou avance, il commence à interagir avec d'autres zones. Fait que c'est à partir de là où c'est que, oui, la main commence à être importante. Oui, le graveyard commence à être important.
C'est exactement ce que je suis en train de parler.
Ok.
C'est vraiment ça. C'est pour ça que t'as notamment dans Alliance, il y a beaucoup de cartes qui se discartent. Fait que tu vas payer moins cher, mais tu sacrifies une carte dans ta main. Fait que eux, ils avaient c'est comme les premiers joueurs de Magic, dans le fond, là, les playtesters. Là. Puis c'est ça qu'ils trouvaient. Ils se disaient, c'est ça l'avenir de Magic.
Il n'y avait pas de tort, à quelque part. Parce
qu'il y avait totalement raison. Il y avait totalement raison. Puis ils ont poussé ce. Mettons, appelons ça ce ridicule. Ils l'ont poussé à son maximum dans la carte Urza Bubble. La babiole d'Urza. Hein, ça fait référence les morceaux d'artefacts que tu trouves à terre. Urza Bubble est une carte qui fait strictement rien. Là. Ça coûte zéro, c'est un artefact. Tu sacrifies ton Urza Bubble, tu regardes une carte au hasard dans la main de l'adversaire. Tu la discardes pas, là. Tu fais juste la regarder. Et tu piges une carte à ton prochain upkeep.
At the beginning of the next turn's upkeep.
C'est l'upkeep
de ton adversaire.
Ouais. Et écoute, c'est tu regardes cette carte-là et tu te dis, ça sert à rien.
Moi, je le joue avec Blanka.
Ben, c'est ça. Quand tu sais quoi faire avec ton Urza Bubble... Moi, je la joue dans un deck de burn où ce que j'ai besoin d'exiler des cartes dans mon graveyard.
C'est zéro pour piger une carte, c'est pas pire.
C'est zéro pour piger une carte. Il y en a qui disent que quand tu mets 4 Urza Bubble dans ton deck en réalité a 56 cartes.
Ouais.
C'est débattable, mais c'est l'emblématique là, de ce que je suis en train de vous parler. Fait qu'eux, ils développent le set de Ice Age avant même que Magic soit lancé. Et ils se disent, ça va être ça la direction qu'on va prendre désormais. Malheureusement, les choses vont faire que Ice Age va être retardé parce qu'ils vont se mettre à sortir plein de petits sets entre-temps pendant l'année 94, tu sais, le Fallen Empire, Antiquities, ces choses-là. Quand ils ont fait Antiquities, qui est dans le fond la guerre entre Urza et Mishra, qui est le truc qu'on parle depuis 4 semaines, là, la seule raison pourquoi ils ont fait ça, ils se sont dit, ça nous prend le origin story de notre Ice Age. Parce que le thème Ice Age est un gros set, comme le core set. Il y a d'ailleurs beaucoup de reprints. Il y a des Swords to Plowshare, des Counterspell, des Circle of Protection dedans.
Des Vésuviennes.
Les knights de blanc et les knights noirs.
Ouais, les chevaliers de Fallen Empire sont dedans.
Ouais, mais moi c'était plus les Prodigal Sorcerer.
Le Prodigal Sorcerer qui est le Zuran Spellcaster. C'est ça, exactement. Le Findorn Elf qui est le Llanowar Elf.
Il y avait les Serangel puis il y avait les Vampires.
Ben, il n'y a pas de Serangel dans Ice Age. Mais il y avait le Seraph qui est un ange qui volait les créatures de l'adversaire. Mais bon. Fait que c'est le thème storyline du Ice Age, c'est que. Passe, skip-nous de jusqu'à la boîte de starters, s'il te plaît. J'aime ça que Tommy t'a le lendemain de veille parce que je vais faire lire beaucoup de flavor text. Avance encore. Va jusqu'à la boîte de starter. Avance encore. Prochaine.
Ah, cette boîte.
Es-tu capable de nous lire ça, Tommy, avec ta main?
It has been many centuries since the war between Urza and Mishra. The battered landscape has become a frozen desert and the creatures of the world of Dominaria struggle for survival. One society has risen out of the cold chaos, defending itself against both the brutal forces of nature and the attacks of nomadic tribes that have emerged in the surrounding wastelands. And through it all, a twisted necromancer flourishes in the deep winter, intent on using his powers to keep the world dark and cold. You may have the skill to survive, but do you have the spirit to withstand the icy wilderness of Dominaria's Ice Age?
Fait que c'est, on comprend le thème marketing de Ice Age, c'est Dominaria recouvert de glace. Les lands sont snow-covered. Et pas mal, tout fait référence au fait qu'il y a de la glace partout, c'est l'âge sombre. Et ça suit, en fait, là, on avait parlé dans l'épisode 187, c'est la guerre des frères Urza et Mishra. Ils ont fait exploser le Golgotian Silex et c'est le recouvert.
Excuse-moi de t'interrompre, j'ai de quoi vraiment important à dire.
Vas-y.
Il y a une faute de typographie. Le point d'interrogation à la fin, il n'est pas censé être en italique.
C'est très important.
C'est le landau de la boîte de starter.
Ouais. Ouais, je m'en rappelle.
Tu serais censé avoir vu ça là. Passe à la suivante, Tommy. On se rappelle, je vous avais présenté la carte pendant le Brothers War, ce que j'appelle la grosse patate, qui était la carte là, de Terizior, le continent où il y a eu les combats. Mm-hmm. Puis ce qui est cool, c'est que dans le premier magazine du Duelist, ils vont prendre la même carte. Passe à la suivante. Ils vont colisser de la neige partout. Des centaines d'années après la guerre des frères. Le set de Ice Age, en fait, se passe plusieurs siècles après le Brothers War. C'est déjà quelque chose de lointain. Et Alliance, qui était le set qui va sortir l'année d'après, c'était quand la glace se met à fondre et la carte de Terizior va devenir comme entrecoupée. Là, ça va devenir comme un paquet d'îles. Mais on reconnaît déjà, là, comme on voit la forêt de Yavimaya en bas, les plaines de Balduvia en haut complètement, le royaume de Gjeldar qui est comme en plein milieu, la forêt de Findorn, ça c'est les elfes.
Non, merci.
Puis t'as les... Bref, tout est là. À travers, on se rappelle que pendant le Brothers War, Urza et Mishra ils se faisaient comme une espèce de course à l'armement en déterrant des artefacts Tran.
Ouais.
Qui sont à l'origine des Phyrexiens.
Ouais.
Ça a été gardé dans le setting de Ice Age. C'est pas mal là-dessus qu'on va se concentrer. Mais avant, je veux juste comme placer les pions un peu là. Passe à la suivante, Tommy. Bon, ça c'est un exemple de snow covered. Moi, je les trouve vraiment cool. Les snow covered lands, je trouve que c'est dans les lands les plus beaux. Surtout l'île avec ses espèces de têtes.
Ouais.
C'est tellement nice.
Ouais, ouais.
Moi, c'est celle de la montagne, mais c'est probablement par nostalgie parce que j'en avais vraiment beaucoup de jouets rouges. Là,
ouais. Tu sais que ça vaut 5 billets chaque à cette heure. Ouais.
Non,
gardez vos snow covered lands.
Ceux-là, oui, mais ils ont imprimés pour moins cher dans Kaldheim.
Non, mais moi, je te parle de ceux d'Ice Age.
Ouais, ceux d'Ice Age, en effet.
Ouais, ils sont vraiment cool. Fait que les deux principales, les civilisations qui ont été rescapées de l'explosion du Golgotian Silex, ils se sont réunis en deux tribus différentes. T'as les Balduviens dans le rouge et les Gjeldar qui sont dans le blanc. Puis ils ont toute une inspiration dans leur linge, viking, tu sais, des cassacornes puis des manteaux de poêle.
Ok, là je t'interromps encore.
Oui.
C'est pas vrai, les vikings avec les cornes sur le casque.
Oui, on le sait.
C'est beau, tu peux continuer.
Mais moi, ok, peut-être, dans l'histoire de la Terre, mais là, on est sur Dominaria, oh, dans le Ice Age. Les Vikings ont clairement des cornes sur leur casque.
Voilà, voilà.
Puis je comprends Hollywood de continuer à mettre des cornes sur les casques.
Oui, c'est pas des Vikings, c'est des barbares.
C'est des barbares, des barbares polaires, ça a des cornes sur le casque.
Voilà.
Fais-nous un flavor text, Tommy, celui à gauche, le Balduvienne Barbarian.
Barbarian raids were a concern to those living in the northwest provinces, but the Sky Knights never dealt with the problem in a systematic way. They thought the Balduvians as an amusing model for their forebears' culture.
C'est pas bon, cette carte.
C'est signé par Gjeldor Ice Civilization. Ça, c'est la commune, là. C'est quand tu drafts le set.
Moi, je veux bien, mais
T'en mets plusieurs, là. 3-2 pour 3, là, qui est dans un deck aggro, là. C'est, ça vaut la peine,
là. Deux rouges, un.
Puis le Gjeldor Knight, là, moi, j'ai déjà joué des games avec, là. Puis il vient gros vraiment rapidement, là. Parce que, tu sais, il est bending. Puis il y a plus grand monde qui se rappelle comment bending ça marche. Fait que tu peux le surprendre avec ça. Puis tu payes 2, il devient soit plus 1 ou plus 2 au toughness. J'ai déjà boosté des Gjeldoran Knight 10-10, là. Mais bon, on diverge. C'est juste pour vous montrer, là, dans le fond, t'as un affrontement entre les Balduviens et les Gjeldor. On passe à la prochaine.
10-10, le mardin.
Oh oui, j'avais
RMP. On avait du mana, hein?
Oh, oui,
c'est un dessin de Ron Spencer, ça veut dire que c'est vraiment pas les plus hot.
À travers cette guerre-là, t'as un nécromancien qui manipule les choses derrière les...
C'est Limdul, c'est mon préféré.
C'est Limdul. Il paraît d'ailleurs qu'il va être de retour dans Dominaria United. J'ai entendu des rumeurs là-dessus. Limdul, c'est les cartes noires dans Ice Age, c'est Limdul. Je veux en parler là parce que on va encore revenir sur lui dans le futur. Puis comme j'ai dit, ça se peut qu'il est dans Dominaria United. Fait que toutes les cartes noires ont rapport à Limdul. Tu vois, quand je disais tantôt, ils ont refait les cartes du corset dans Ice Age. On voit le Dark Ritual, que tu fais 3 mana noirs pour un noir. Le personnage qu'on voit dessus, c'est Limdul. Limdul a toujours des grosses cornes de... des cornes de bouc. Son casque, là, c'est des cornes de bouc. Puis ça, c'est une malédiction de l'Eshrak. L'Eshrak, c'est un planeswalker qui manipule lui-même Limdul. C'est comme une genre de poupée russe, là. T'as comme plusieurs niveaux de profondeur. L'Eshrak, pour contrôler Limdul, à un moment donné, Limdul, il avait désobéi, il a fait pousser des cornes. Fait que c'est pour ça que, notamment, le Abyssal Spectre, il a des cornes de chevreuil, là. Comme c'est un peu comme l'emblème de Limdul, c'est d'avoir des cornes sur un casque.
Cool.
Moi, j'aime bien le flavor text d'Abyssal Spectre. Là, ça dit « Open the gate and bid them to enter », signé Limdul and Necromancer. Fait que là, tu sais, on s'imagine que Limdul a callé ses Abyssal Spectre, puis là, ils s'en viennent pour les envoyer chercher quoi, tu sais. Drift of the Dead, là, ça, c'est vraiment fort avec des pestilences. 3 colorless, un noir. Son power toughness, c'est le nombre de snow-covered land que t'as en jeu. Puis, pourquoi c'est fort avec du pestilence, c'est que tu veux tout le temps une créature en jeu qui survit. Puis il y avait beaucoup de decks, là, parce que dans Ice Age, t'as Whispering Wisp, qui est le pestilence de Ice Age, qui marche avec des Snow Covered Land. Fait que, tu sais, ça te fait 12 cartes, là, qui ont une très bonne synergie ensemble. Take their dead and thumb them in the snow. Risen, they shall serve a new purpose. Fait que Limdul, dans le fond, il prend les morts de la guerre entre les Gjeldoran et les Balduviens, et il en fait son armée de Undead. On passe à la suivante.
Ça, c'est du recyclage.
C'est du gros recyclage. Et il fait appel à des gros démons. Hein? On n'est pas encore... là, on est en avant la panique satanique parce que les monstres s'appellent encore des Summon Demons.
Ah, ben oui.
Je vous avais parlé de l'Eshrak tantôt. T'as deux Planeswalkers importants dans l'histoire de Ice Age, mais ils sont juste sur 2 ou 3 cartes. C'était des personnages qu'on avait créés pour les comic books qui venaient avec Ice Age. Puis, fait que t'as le Minion of l'Eshrak, qui est un gros monstre, 5-5, protection contre le noir. Et Minion of Tevishzat, qui est un 4-4 pour 7. Je veux pas trop m'attarder sur ces cartes-là, elles sont vraiment pas bonnes, mais c'est juste mentionner que Tevishzat et l'Eshrak sont les deux Planeswalkers noirs dans le monde de Ice Age, et eux, les deux, leur but, c'est sont prisonniers du monde de Dominaria, parce qu'un des effets de l'explosion du Golgassian Silex, je pense que j'en avais déjà parlé dans un vieil épisode, c'est que les Planeswalkers peuvent plus s'en aller de Dominaria. Fait qu'ils sont comme pognés sur Dominaria pendant le Ice Age.
Pauvre Planeswalker. Ben moi, je les aime, ces cartes-là.
On va-tu les voir dans Dominaria United?
Comment tu dis?
On va-tu les voir, les Planeswalkers, dans Dominaria?
Tevishzat a été réimprimé dans Commander Legend il y a 2 ans.
Puis l'Eshrak?
Je vais le montrer à la fin de l'épisode. L'Eshrak a jamais été mis en carte. Puis l'Eshrak a été tué par Nicole Bolas dans le roman de Time Spiral en 2008.
Ah, ben voilà.
Toi, c'était ton deck de démons qui payait pas l'upkeep, hein, Tommy?
C'est ça.
Attends, je veux juste la décrire rapidement. Là. Le minion de l'échec qui est protection contre le noir. À ton upkeep, tu dois sacrifier une créature. Sinon, il te fait 5 de dégâts et il se tape. Fait que tu peux plus attaquer avec. Mais tu peux aussi le taper pour détruire des créatures ou des lands. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort.
Ouais.
C'est un genre de royal assassin mélangé avec un demonic horde mis sur la même carte. Sauf que le problème, c'est qu'il faut que tu sacrifies une créature à tous les tours.
C'est vrai.
Puis la raison pour laquelle il est protection from black, c'est qu'il peut pas, tu peux pas t'en débarrasser de lui-même.
Dans un deck noir, ça te prend le bâton de Dominion là, que tu tapes, tu sacrifies un de tes permanents.
T'avais Jatt, tu jouais-tu avec? Je vois la deck.
Ouais, ouais, c'est un
deck. À ton upkeep, tu payes 2 noirs, sinon il te fait 2 de dégâts à toi, à l'upkeep. Et tu peux le taper pour donner plus 3, moins 2 until end of turn à une créature. Dans le fond, tu peux tuer des créatures qui ont 2 de toughness. Fait que toi, tu jouais ça avec l'artefact qui enlève le... Vas-y, raconte-nous ça.
C'est le Staff of Dominion. Non, c'est pas ça.
Non.
C'est, en tout cas, il y a une staff dans Ice Age qui coûte un colorless à sortir. C'est un artefact. Puis après ça, tu peux la taper puis sacrifies un de tes permanents. D'habitude, tu peux pas comme tuer un de tes permanents.
Ah oui, c'est le Despotic Scepter. C'est le Despotic Scepter. Tu payes un puis tu sacrifies un permanent. Je pense que tu jouais ça avec le... Tu nous en as déjà parlé. C'est l'artefact dans Mirrodin qui enlève le upkeep.
Oui.
Fait que là, il coûte plus rien.
C'est devenu cette évolution-là plus tard, là, effectivement.
Ouais, c'est pas mal cool.
Ouais.
Fait que j'ai fini ma parenthèse sur Tevez Jatt et Leshrac. On va les revoir. Dans le coin le plus magané de Terriziar, c'est surtout là qu'on va passer notre épisode. Ça s'appelle les Adarkar Waste. Adarkar Waste, là, c'est le land qui fait du bleu, du blanc et qui te fait du dégât quand tu le tapes. Adarkar Waste, c'est l'endroit où il y avait les strip mines, notamment, là, dans la guerre entre les deux frères. Fait que c'est notamment là où il y a plein d'artefacts en dessous de la glace.
Okay.
Puis t'as une gang de mages bleus qui se sont installés là. Ils ont créé la cité de Sol Devi. Puis ça, c'était représenté par la carte Sol Devi Machiniste, un colorless, un bleu, que tu peux le taper pour faire 2 mana colorless pour les activations d'habilités d'artefacts. Et les Sol Devi, dans le fond, eux, leur leader, c'est Arkum Daxon, qui est un Sol Devi Machiniste. Il est mentionné sur plein de flavor text dans Ice Age. Et lui, son but, c'est dit la façon d'arrêter le Ice Age, c'est qu'il faut que je découvre des affaires sur Urza et Mishra. Et ça va, à un moment donné, ça va probablement me donner une machine qui va me permettre de mettre fin au Ice Age.
Une espèce de Sol Ring.
Ouais, quelque chose. Tu sais, fait que il dit perhaps this time the power of the artificer shall be used wisely. Son ambition à Arkum Daxon, c'est de mettre fin au Ice Age par l'emploi de machines. Passe à la suivante. Fait que là, c'est ça. Il trouve notamment le Urza Bauble que j'ai parlé au début. Ou le Icy Manipulator, un bon vieux classique. Tu payes 4, c'est un artefact, tu payes 1, tu peux taper un artefact, une créature ou un land. Ça, c'est vraiment bon dans des decks de contrôle. Lis-nous le flavor text de...
The Scavengers who first found it called it the Bone Crank. Not a bad name, I'd say.
C'est Arkum Daxon. Fait que c'est Arkum, c'était surtout des flavor text dans le Ice Age. On n'est pas encore à l'époque là, que les cartes sont des comic books.
Ouais, j'ai une question quiz pour Andy. Andy, quel changement de règles de Magic a fait que Icy Manipulator est moins bon qu'avant?
Je pense que c'est le first in, last out. Là?
Non, c'est le déclarage de phase d'attaque.
Non, avant, puis une fois, tu peux me corriger si j'ai tort. Puis c'est écrit sur Hauling Mine, un artefact était désactivé quand il était tapé.
Ouais.
C'est pas tous les artefacts, c'était ce qu'on appelle c'était les mono-artefacts. Comme tu tapes un Black Vise, il va encore te faire du dégât. Puis ça, ils l'ont corrigé. En fait, c'est que tous les artefacts que dans le temps, comme le Hauling Mine, qui te fait piger deux cartes à l'upkeep de chaque joueur, à Star, qu'ils l'ont réimprimé souvent, là, tu peux jouer dans Moderne, ils ont ajouté le texte sur la carte que... Le Holy Mind marche pas s'il est tapé. C'est la même chose avec le Winter Orb.
Ouais.
Mais c'était seulement les mono-artefacts.
C'est ça, hein? Les polys et les
mono. Pas comme, tu peux pas taper un Rack et un Black Vise. Il va te faire du dégât quand même.
Bon. Là.
On passe au suivant. T'as un Concert Party. Comme on sait, dans tous les parties, il y a un Concert Party.
C'est vrai.
Hein?
C'est vrai.
Sur Stone Rain, comme j'ai dit, là, ils ont réimprimé les cartes du corset dans Ice Age. Stone Rain, 2 colorless, 1 rouge, tu détruis un land. May the force that took our god beneath the wave never come among us again. C'est Arkum Daxon qui dit, on se rappelle, Argot, c'est l'île des fées et des elfes où le Golgothian Silex avait été déclenché.
C'est dégueulasse.
Il dit, on découvre plein de vieilles machines, là, on espère qu'on va pas recréer les erreurs du passé. T'sais. Puis t'as un gars dans la gang des soldes vie. Il s'appelle Sorin Relicbane. Sur le Disenchant, hein, tu peux Disenchant, tu peux péter un artefact ou un enchantement. Fais-moi un beau flavor text imploratif.
I implore you not to forget the horrors of the past. You would have us start the brothers' war in you.
Fait que ce qui est vraiment drôle, c'est que dans les flavor text d'Ice Age, t'as tout le temps Sorin Relicbane qui donne la réplique à Arkham Daxon. Puis c'est pour ça qu'il dit Sorin Relicbane, sol de vie hérétique. Il est tout le temps comme arrêtez de creuser. Puis là, Arkham, c'est tout le temps non, on creuse.
Ben oui, esti. Ben oui.
Je trouve ça cool.
Ben oui. C'est lui, despotique scepter.
Tu vois Shatter. Lis-nous le Shatter, là, tu détruis un artefact. Lis-nous le.
Let the past be the past, Soda. Do not call up with that which cannot be put down, Tabaslack. Destroy that which destroyed us, Motadi. So long ago, vierge.
Puis le Despotic Scepter qui permet de détruire tes propres permanents. Lis-nous le Fleuve Tax.
We were not meant to have such terrible things. They should be left where we found them. If not, destruit!
Moi, je trouve ça cool.
C'est la politique.
La carte qui détruit le permanent qui te pognait. Ça, c'était joué beaucoup dans les decks de Stasis. Là.
C'est comme Eric Duhem qui veut détruire le système de santé.
Ouais.
Pour la liberté.
On passe au suivant. Il y a un autre personnage qui est important dans Ice Age. J'en ai parlé tantôt. Oui. C'est Jaya Balor. Jaya Balor a fait son apparition dans Ice Age. Il y a une seule carte où on la voit, c'est Pyroblast, que tu peux counterer un target blue spell. Jaya Balor, j'en ai déjà parlé, là, elle est surtout des flavor text de mage rouge. Puis c'est pour ça qu'éventuellement, ils l'ont fait en Planeswalker. C'est que les flavor text sont cool. Puis c'est tous des genres de snarky remarks.
Oui.
Tu fais du burn comme.
C'est très très thématique du rouge. Ouais. Là, ça l'a eu un impact pour toujours. Là.
Pyroblast, elle dit just the thing for those pesky water mage. Pyroclast, où que tu détruis toutes les. C'est, tu te fais deux à toutes les créatures. Leave more room for the big one to fight in, you know? Jaya Balor, Tasmate. Fait que Jaya Balor, elle, c'est une magicienne. C'est pas une Planeswalker là, à l'époque. Son Planeswalker Spark n'a pas encore starté. Elle, c'est une simple magicienne rouge qui se fait engager comme mercenaire, soit du bord des Balduviens, soit du bord des Gjeldar, tu sais, elle se promène. C'est pour ça qu'on dit une Taskmage, c'est un mage que t'engages pour faire une job.
Genre, for a fistful of dollars?
Genre, exactement.
Ouais.
Puis, fait que t'es comme, passé là, un mercenaire. Là. Fait que ça, c'est la storyline de Jaya. Je pense qu'on est bon pour une petite pause.
C'est la carte de la semaine, notre présentation de l'adversaire, notre magasin affilié 4303 Sainte-Catherine-Est. Vous irez faire un tour. On s'en va vers la carte de la semaine. J'ai très hâte de voir ça va être quoi. Pour l'instant, on écoute un beat à Bone. Carte la semaine. Je double-clique, puis on va l'avoir ou t'as-tu une présentation?
Non, vas-y fort, vas-y
on
fort.
On est rendu.
Le Arkham Daxon, comment il fouille à travers la calotte polaire, la calotte glaciaire, il utilise le Sol David Digger, qui est probablement une carte oubliée, mais qui est plus fort que ça a de l'air, puis je vais vous en parler. C'est un Sol David Digger, un artefact pour deux colorless. Après ça, tu peux payer deux, mais dans le fond, tu peux payer autant que tu veux. Tu prends la carte de ton graveyard et tu la mets au bottom de ta librairie. Fait que dans le fond, tu peux payer 4, tu prends 2 cartes de ton graveyard et tu les mets les deux sur le bottom de ta librairie. Là, tu vas te dire, ben, c'est so-so parce que dans le fond, ta carte, elle va au fond de la librairie, tu sais. Fait que là, pour que ce soit utile, faut que tu trouves une façon de shuffle. Puis là, peut-être, si t'es chanceux, à un moment donné, tu vas la piger. Mais d'accord.
Il y en a une ou deux, trois cartes.
J'arrive.
OK, c'est bon.
Lis-nous le flavor text, Tommy.
Ben oui. This ceaseless device has helped uncover marvels unreachable by mere flesh.
C'est mis Arkham Daxon. Moi, j'adore le dessin de Amy Weber. C'est un de mes préférés. On voit la grosse drill avec tous les engrenages.
Ouais. Puis il y a comme plein
awesome.
De clouds.
Des horloges. On voit, il y a comme des lunes, là, le cycle lunaire.
Oui, irez voir ça là, sur YouTube.
Elle a changé sa signature. Si tu regardes
Le A dans le coin en bas, là?
Oui, parce que dans le temps, si tu check Shivan Dragon, c'est un petit, c'est un beau petit carré.
Amy Weber n'a pas fait Shivan Dragon. Je suis désolé.
T'as
raison, c'est Melissa Benson. Ouais. Excuse-moi, je suis dans l'une.
Non.
Donc, t'as un deck vraiment fort en 96. C'est le fameux John Finkel qui l'a starté. Il appelait ça le Bros Digger. Fait que le Bros Digger, là, avec Bros, c'est sorti dans Alliance, aussi dans le bloc d'Ice Age. Deux colorless, deux bleus, tu payes 4. Tu regardes les 5 premières cartes de ta librairie, t'en mets une dans ta main et tu enlèves les 4 autres, tu les remove from the game. Puis c'est signé encore Jaya Balor. Hein? Once great literature, now great litter. La bonne littérature, c'est devenu des litières.
C'est devenu de la litière.
Le but d'un Bros Digger deck, c'est d'enlever tout ce que t'as pas besoin en utilisant Bros. Et après ça, ton deck, moi j'ai joué des games comme des decks de Bros Digger récemment là, en webcam. Là. Puis c'est vraiment chiant. C'est, tu sais pas que t'as perdu, là. Puis une heure après, tu te dis j'aurais dû arrêter de jouer parce qu'il y avait aucune façon
que
parce
que le deck il devient un deck de 7 cartes qui fait juste comme tout, tout,
c'est
tout,
tout, tout, tout, tout. Non, c'est, des fois là, moi j'ai joué contre du monde, fait juste avancer d'un. Là. J'ai joué comme du monde, il restait une carte dans son deck.
Okay. Puis
tu faisais juste, dans le fond là, parce que la règle à Magic, c'est que si t'es pas capable de piger, t'as perdu.
Ouais.
Ton Sol de Vidigger, comme tu as vu que t'as beaucoup de mana, là, pis c'est tout le temps des decks de contrôle avec plein de counterspells, ben, tu vas juste tout le temps ramener ce que t'as besoin. Tu sais, ce qu'on voit, c'est le fameux deck de John Finkel avec lequel il a fait le top 8 en 97. Mais t'as plein de variantes. Il y en a, ils vont mettre genre juste un Lightning Bolt, puis il va juste constamment, tu sais, Lightning Ball, Bros Digger, Lightning Ball, Bros Digger.
C'est ça.
Puis, c'est ce qu'appelle les decks de Bros Digger. J'en ai vu, si tu passes à la prochaine, ça, moi, je l'ai subi.
Mais là, il n'y a rien pour tuer là-dedans.
Alors, ça, c'est mill out, tout simplement. C'est il fait ça. Juste ouais, survivre en vie.
C'est game interminable.
Ouais, c'est game interminable. C'est fait pour gagner des tournois.
Ah, le Jester.
Mais le Jester Cap, avec 4 Jester Cap. Jester Cap, là, ça vient d'Ice Age. Une autre carte emblématique d'Ice Age. Tu payes 2 colorless, tu sacrifies ton Jester Cap, tu regardes la librairie de ton adversaire, tu enlèves 3 cartes.
Ah, c'est ça.
Fait qu'avec ton Bros Digger, tu ramènes tout le temps ton Jester Cap. Jusqu'à temps que tu as millé out ton adversaire, il n'y a plus de cartes. Toi, tu fais juste là, tu sais, Jester Cap, Jester Cap, Jester Cap. C'est vraiment chiant, mais c'est le fun à faire. Je suis sûr que tous ceux que j'ai joué contre ont eu du gros plaisir à me Bros Digger le cap. Parce que tu te dis, ben là, il reste une vie, puis je suis pas capable de le tuer, puis lui, il reste une carte dans sa librairie. À un moment donné, il va se miller par accident. Puis on a encore une signature d'Arkum Daxon, hein? Know your foes, the strength as well as their weakness.
Ouais.
C'est bien dit pour la carte.
Bien dit. Fait que la carte de la semaine, c'était...
Sol de Vidigger.
Sol de Vidigger,
ouais. Ah, ça a bien de l'allure. Ça nous amène à la fin de la carte de la semaine. Merci, Jason, pour ça. On va se retaper une autre petite tranche de beat à bonde pour aller finir l'épisode. On est deep dans le glacier du Ice Age. Fait que là, il y a des elfes, là.
Oui, c'est les elfes qui vont sauver la civilisation.
Quoi?
Oui, les elfes de Findorn. J'en ai pas encore parlé, là, mais c'est comme... Tu sais, parce que j'ai parlé des cartes noires, les cartes rouges, les cartes blanches, les cartes bleues. Les cartes bleues, c'est les seules de vie. Les cartes vertes, c'est les elfes de Findorn. Eux sont les plus... comment je peux dire ça? Là, anti-artificer, hein, parce qu'ils se rappellent qu'est-ce que Urza et Mishra a fait. Et il y a un Planeswalker parmi eux qui s'appelle Freyalize. Freyalize est aussi mentionné sur les flavor text des cartes vertes. On voit le Findorn Elder qui est un 2 colorless, un vert pour un 1-1 que tu peux taper pour faire 2 mana verts. Do we know what we're doing? Yes, the will of Freyalize. C'est signé Line of the Elvish Council. Freyalize est la déesse.
C'est ça, c'est les Planeswalkers dans ce temps-là, ils étaient comme des dieux puis des déesses.
Mais pas toutes. Ça dépend comment qu'il se présentait. Freyalize, elle se présente chez les elfes comme étant la déesse de la forêt.
Puis ça avait affaire pour Limdul qui se présentait comme une espèce de dieu nécromancien.
Ben, Limdul n'est pas un Planeswalker, mais on parle de l'Eshrak.
L'Eshrak, excuse-moi. Ouais.
Folk of the Pine, tu sais, c'est un dryade, le 2-5 que tu peux booster. Nos amis de la forêt prennent plusieurs formes, mais ils servent tous la volonté de Freyalize. Freyalize est un nom qui va souvent revenir dans les cartes de Ice Age et Alliance. C'est la déesse verte. Et en réalité, c'est un Planeswalker qui est sur Dominaria et qui cherche une façon d'arrêter le Ice Age pour crisser son cœur.
Pour pouvoir s'en aller, là.
Ouais. Puis, c'est elle, à travers les quests, ça c'est dans le roman de Shattered Storm, je pense. De Shattered Alliance.
Shattered Alliance.
Où ce que Freyalize, elle va l'idée Jaya et un personnage qui s'appelle Joda. pour faire un gros, ce qu'on appelle le World Spell, qui est dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle casse un Wild Growth sur un Findorn Elf. Fait que là, non, elle casse un Wild Growth sur une forêt et a fait, je pense, c'est les Druids. Les Druids étaient aussi dans Ice Age, qui permettent d'untaper un land. Puis là, elle fait un genre de loop infini pour caster un Stream of Life. Puis, apparemment, si tu fais un Stream of Life de mana infini, ça l'arrête, le Ice Age. Je vais t'expliquer de même dans le storyline.
Ah, ben, Colin,
Fait que, on arrive ensuite dans Alliance, qui est, alors que les glaciers fondent, les Balduviens et les Gjeldor font... Là, ils se rendent compte que toute cette guerre-là, c'est à cause de l'Imdul qui voulait préserver le Ice Age.
Aha.
Et ils se disent, bon, on va mettre un terme à ça. Fait que les Gjeldor et les Balduviens font une alliance. C'est pour ça que le set s'appelle Alliance, pour combattre l'Imdul. Puis, tu avais une carte vraiment forte dans Alliance, qui est une carte encore de 60 pièces de nos jours. C'est le Thawing Glacier, le glacier qui fond. Ça représente, là, comme je dis, la glace qui fond. Ça, c'est le premier Fetchland dans Magic. Puis quand je vous parlais tantôt, les créateurs du set d'Ice Age, comment ils aimaient comme, t'sais, développer des nouvelles affaires, qui n'est pas nécessairement des grosses créatures force à la table. Eux, ce qu'ils s'étaient dit, c'est une des façons d'amener comme une nouvelle dimension au jeu de Magic, c'est de faire des cartes que... tout ce que la carte fait, c'est que ça va t'aider à aller chercher un land.
C'est comme ça que ça a commencé. Mine dans tes mains, hein? Mine de rien, c'est hot, ça.
Oui.
Dans un deck que tu mets plein de landes en jeu, lui, il compte pour
ça,
beaucoup.
Ça rame beaucoup. Thawing Glacier, là, c'est une carte très forte. Elle rentre en jeu tapé, cependant. Puis, généralement, c'est qu'avec le Sol David Eger, ça permet de brasser ton deck. Ou, par exemple, tu fais un Brainstorm qui te remet des cartes sur le top de ta librairie. Tu les aimes pas, tu fais ton Thawing Glacier, ça permet de shuffler ta librairie.
Une manière de shuffler son library, c'est tout
le
pratique.
Oui, tout le temps. Ça, c'est le Fetchland original. Puis, à cette heure, on sait dans le Magic moderne à quel point tous les decks ont des Fetchlands, comment c'est rendu commun. Vous avez probablement, si vous jouez à Magic, là, je pense qu'à la fin de vos jours, tu vas avoir dépassé 2 ans de ta vie à avoir regardé quelqu'un brasser son librairie parce qu'il a fait chien là.
J'aimerais ça que ce que tu as dit soit vrai, que les Fetchlands, ça soit des communes.
Ouais, mais non, c'est trop fort. C'est très fort. C'est très fort, les Fetchlands.
C'est ridicule. Là.
On passe au suivant. Fait que là, la neige à fond, la glace à fond. Fait que là, les soldes de vie sont contents parce qu'ils peuvent encore creuser plus profond.
Il y a plein de poubelles partout.
Fait que t'as plein de soldes de vie dans Alliance, dans les cartes bleues. Les cartes bleues dans Alliance, c'est surtout les soldes de vie. Soldes de vie sage, un colonel. Puis, oui, Alliance, c'est qu'ils mettaient. Ils faisaient la même carte avec plusieurs artworks.
Ouais, ça, j'aime ça, moi, ça.
Ouais, c'est pas mal cool. Fait que là, soldes de vie sage, là, où on voit l'espèce de matriarche là, qui lit son livre. Tu la tapes, tu sacrifies 2 lands pour piger 3 cartes, puis tu discartes une de ces cartes-là. C'est le fun. Si tu veux booster ton Graveyard, lis-nous le Flavor Text, c'est surtout pour ça que
Our underground archives grow daily as our excavators and sages alike dig to uncover hidden wonders.
Fait qu'il n'y a plus d'Ice Age, tu sais, le but d'Arkham, c'est d'arrêter l'Ice Age.
Venise.
Fait comme le but de pourquoi il faisait ça n'existe plus, mais il est tellement comme content de toutes les machines qui remontent à la surface qu'il dit pourquoi j'arrêterais, tu sais.
Fait que là, l'ostinade peut continuer parce que c'est même pas en creusant qu'ils ont trouvé la solution. C'est l'autre Freyalis qui a tout géré. Puis là, lui, il pense que c'est de sa faute, Arkham.
Non,
c'est
il
moi,
se dit.
C'est moi qui a tout sauvé, c'est moi qui.
Non, crache. même pas. C'est carrément, c'est que c'est le fun de trouver des vieilles machines. C'est ça qui nous amène notre puissance. On va continuer. Okay. Mais Relic Bane le met en garde. On voit l'autre copie de Sol de Visage.
To hide the truth is more folly. It's more than folly, it's fatal, la 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 la.
Fait que c'est ça, fait que là, tu sais, l'estinade continue, on passe à la suivante.
Et la 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 la, qui c'est qui va gagner?
Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, puis là, ils avaient fait la carte Sol de vie hérétique, hein. Là, on voit, là, c'est vraiment des casseux de party, là. Tu payes, ça, c'est les cartes de couleur, là. Tu payes un blanc pour prévenir 2 dégâts à une créature, ton adversaire pige une carte. C'est vraiment pas bon.
Non, hein.
Mais bon, tu sais. In the arm of tragedy, there is little comfort in being right. Ce plein Solic Relic Bane. Puis on voit là, tu sais, il tient l'épaule d'un gars, puis il l'avertit là, arrête de creuser. Puis Sol de vie hérétique, l'autre version, c'est It cannot be Sol Death crushed and my machine are to blame, dit Arkham Daxa.
Ben
parce que
non!
Là, le problème, c'est qu'en creusant, ils ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû découvrir.
Pas le Juggernaut.
Sans faire par exprès, il n'avait pas arrivé.
Oh non, le Juggernaut!
Parmi les soldes de vie se développe une nouvelle faction. Une nouvelle faction, j'ai souvent parlé des Sleeper Agent. Les soldes de vie à Nat, ça c'est dans les cartes noires. Les soldes de vie, ça c'est les cartes noires dans Alliance, c'est les soldes de vie à Nat. C'est que c'est des soldes de vie qui trippent sur les machines, mais là, en creusant, ils ont découvert les affaires des Phyrexiens.
Wow. Ah.
Puis, dans le fond, les soldes de vie à Nat, ce qu'ils font, c'est que tu sacrifies une créature ou un artefact pour donner un nombre de mana noir égal à son casting cost. Puis, moi, ce que j'aime bien dans le flavor text, c'est « People love to follow fool. They don't feel so alone, Dan, dit Solik Rolling Bane, qui avait encore raison. Hein. » Ou l'autre version, c'est « An idiot cannot hear sense even when 1,000 people speak it. » C'est Sorin Bane qui se plaint qu'il n'y a personne qui l'écoute. Ça
il
fait
est
très
la conspilvanie, man.
La conspilvanie. Il dit « Arrêtez de creuser, ça va mal finir. » Parce que là, il commence à y avoir des infiltrés phyrexiens anonymes parmi les seuls des vies. Et c'est ça, éventuellement, ils vont faire le Ritual of the Machine.
Hein. Ah, ça, c'est bon.
Tu sacrifies une créature pour gagner le contrôle d'une créature non-black, non-artifact. Lis-nous le flavor text.
Rumors persist of dark deeds performed in the depths of Soldev. When will Dixon need to danger the rain?
T'es pas dans la meilleure, celle-là, mais on va te le pardonner. Mais, Mais bon, fait que c'est ça, c'est les, on voit là, dans, il pousse l'histoire là, que à mesure qu'ils creusent, il y a de plus en plus d'infiltration phyrexienne et éventuellement ils vont découvrir le portal phyrexien.
Bon, ça allait bien avant là, calvaire.
Le portal phyrexien, j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler, passe à la slide suivante. La shit va pogner, les phyrexiens vont se mettre à contrôler les trucs. Phyrexian Boon, hein? On voit l'espèce de main phyrexienne là, qui pogne un guerrier dans sa main.
C'est cool.
Daxon should have paid attention to the lesson of Phyrexia before attempting to create a mechanical utopia. Et dans le fond, là, t'as plusieurs artefacts dans Alliance, comme le Phyrexian Devourer, très fort à Legacy. Si Scarlet a un, si il gagne plus 7 de power, faut que tu le sacrifies, mais sinon tu payes 0. Tu enlèves la première carte de ta librairie et pour mettre un counter plus X qui est le casting cost. Fait que si tu exiles la première carte de ton librairie qui est une 12 de casting cost, ben ton Devourer il devient un 12-12.
Non,
il est mort parce que son power est plus que 5.
Ah oui, ok, ben non, on s'entend que le casting cost de 12 ça existe pas, mais mettons 5. Il devient 5-5. T'as plein de combos à faire ça là, avec des cartes qui enlèvent les counters. Tu peux jouer beaucoup autour
Mark
de ça.
Mark Tedden fait des beaux dessins. Là.
Mark Tedden fait des dessins vraiment awesome.
Comment c'est cool.
Puis le cône, cette espèce de cône phyrexien là, qui avale. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train d'avancer, puis il avale comme la terre. Là,
ouais.
Ça sort dans la cheminée en arrière. Si vous retournez voir notre épisode là, qu'on avait fait où Urza va sur la Phyrexie. On voyait beaucoup cette machine-là dans les décors en arrière.
Oui.
Notamment Raw Processor.
Oui.
J'adore qu'ils suivent leur histoire comme ça. Là.
Moi aussi.
Puis, bon, c'est ça. Ce qui va sortir, c'est les Phyrexian War Beast. Ça, c'est fort dans les decks aggro. C'est notamment le World Championship de 96. Le deck a gagné, il en avait 4. 3 colorless pour un 3-4. Son seul downside, c'est que s'il quitte le jeu, même si tu te fais bouncer dans la main, là, faut que tu te sacrifies un land puis tu perds un, mais tu sais, c'est rien. Là, ton deuxième tour, t'as un 3-4 qui attaque. Ça ramasse le cas. Ça ramasse la game. Lis-nous les flavor text. C'est encore les listinades. C'est vraiment.
Deal with the spawn of Phyrexia cautiously. Only with time may we control them. Ben oui, si. Mais là, pourquoi qu'on t'écoutera encore? C'est pas un cossin. Knowing its origins, how could they have thought they could control it? Dit Sorin. On n'a pas rien compris, je vous l'avais dit.
Fallait écouter le conspirateur, finalement, c'est ça?
Oui, oui, ça, c'est les conspirationnistes avaient raison dans cette storyline-là. Fait que là, les Phyrexiens sont lâchés sur celle des vies. Qui va sauver la journée, selon vous?
Super souris.
Non, ça doit être un elfe encore.
Un elfe, non?
Ferraya.
De qui qu'on parle depuis le début de l'épisode?
Jaya.
Ouais, voilà.
C'est Jaya.
Ça va être Jaya.
C'est Jaya qui vient sauver la game. Les premières fois qu'ils ont apparu en carte, c'était dans Time Spiral puis dans Dominaria. C'est Jaya Balor, Taskmage puis Joda Archmage Eternal. Ça, c'est dans le roman, là, ces événements-là que je vous décris, là. Ça n'a pas été mis en carte le combat comme entre Jaya et les Phyrexiens, mais c'est dans le fond sa job, ça va être de cleaner les Phyrexiens en Soldev.
À coup de feu.
À coup de feu. Dans Dominaria, ils ont imprimé la carte. Oh, fun fact, Jaya Balor, là, ses trois habilités. C'est encore une... On voit, là, ça, c'est une des premières créatures qui a les trois habilités, comme on parle depuis tantôt, là. Tu vois, tu peux payer un rouge, tu discartes une carte, tu détruis un blue permanent. Ça, c'est le Pyroblast de tantôt. Ouais.
C'était proto... comment je pourrais dire, c'est proto Planeswalker en esti.
Aussi, mais c'est exactement ce qu'on voyait tantôt avec la première carte de Dominaria United, j'ai parlé. Ouais. Un colorless, un rouge, tu discartes, c'est tout le temps tu discartes une carte. Discartes une carte, elle fait un incinerate sur une target créature ou un joueur. Ou tu payes 7, tu discartes une carte, puis elle fait 6 dégâts à toutes les créatures, tous les joueurs. Ça, c'est la carte Inferno. Vous voyez un peu le genre, là. Puis Joda, lui, il vient de Latnam. C'est un étudiant de. Je vous ai souvent parlé de Latnam. C'est une espèce de. Tu sais, c'est la gang, là, qui la gang de mages bleus qui voulait arrêter le Brothers War.
Ouais.
Joda, dans le roman, il tombe dans la Fountain of Youth, puis il fait un loop de mana, fait qu'il devient immortel parce qu'il gagne comme infinie de vie. Fait que Joda, c'est un des rares personnages immortels de Magic qui est pas un Planeswalker, puis qu'il est pas. Parce que l'autre personnage immortel, c'est. Voyons comment elle s'appelle. Joyra, là, parce que à cause des événements de Tolaria, où le temps est comme tout débalancé. Là. Tu vois, ça dit dans le Favor Text, les chroniques à travers les âges décrivent Joda. Pas comme un mage, mais comme une famille ou un titre qu'on se donne.
Fait qu'il existe encore Joda
aujourd'hui. Joda est dans. Ça, c'est la carte dans Dominaria. Puis moi, je pense qu'il va y avoir une carte Joda dans Dominaria United.
Ok.
Puis c'est un personnage, dans le roman, c'est qu'il apprend à contrôler les cinq couleurs de magie. C'est pour ça qu'il y a des cinq boules de magie en arrière, puis c'est ça son habilité.
Là, il a l'air d'être élevé en vibration.
Oh, il est omnipotent. Là. Fait que là, cette gang-là se rend à Soldev. Je pense à la suivante. Ils ont mis la carte. Ça, c'est ce que je voulais vous parler.
Joda est weird, il est comme une aberration.
Oui.
Il peut pas planeswalker, c'est la seule affaire qu'il peut pas faire.
C'est pas un planeswalker, c'est juste un.
Mais il y a tout le reste. Il y a comme toutes les puissances de tout sauf planeswalker.
Ben, il est capable de casser de n'importe quelle couleur, mais il y a quand même des limitations. Là. C'est juste un magicien. Mais ben, sauf qu'il y a de la connaissance des milliers d'années. Il connaît toute la storyline de Dominaria.
C'est ça, il pourrait prendre la place à Jason. Peut-être que Jason, c'est Joda.
Dans notre monde à nous autres.
C'est
notre Joda.
Dans Dominaria, ils ont fait un Legendary Sorcery qui est un des chapitres du roman que je vous parle, qui est Jaya Immolating Inferno. C'est que le combat contre les Phyrexiens se passe vraiment pas bien pour... Jaya et Joda,
j'imagine.
Ils sont en train de combattre des Phyrexian Beasts, puis ils sont en train de se faire planter. Fait que Jaya appuise dans son fort intérieur et elle va chercher toute la magie qu'elle est capable de faire. Ça, c'est un gros fireball, là, de deal X damage to each up to 3 targets. On voit sur le artwork, ce qu'on voit qui est assis devant puis qui est en train de faire brûler les sourcils, là, qui est comme ah! Ça, c'est Joda. C'est qu'elle fait un gigantesque spell. En fait, c'est le même spell qu'on a vu au début de l'épisode, là, qui faisait 5 dégâts à tout.
Ouais.
Mais il n'y a pas Teferi qui est là pour
phaser out
Joda. Mais Joda est immortel, fait que c'est pas trop grave.
Mais c'est surtout ce qui est en bas qui est important.
Centuries ago, a pyromancer spark ignite in a fiery conflagration. Fait que dans le fond, elle fait comme un immolating inferno pour tout péter.
Ça a fait ça a spark.
Ça, c'est ça, by the way. Ça fait référence à sa troisième habilité que je parlais tantôt. Là,
ouais.
Il y a 6 dégâts contre inferno.
Puis, dans le fond, c'est qu'elle brûle tout dans la place et elle brûle tous les phyrexiens de Sol Devi comme ça et son spark pogne. Fait qu'au lieu de crever, elle devient un Planeswalker immortel, qui sont les cartes de Jaya qu'on a toujours en 2022.
Et voilà. Dans Slack, hein?
Puis dans 2006, ils ont sorti, là, je vais passer rapidement dessus, là, mais ils ont sorti le set Cold Snap, qui est un genre d'hommage à Ice Age et Alliance. Je veux pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a pas trop de Phyrexiens, il y a comme pas trop d'histoire dans Cold Snap. C'est comme un gros set là. C'est un petit set qui était sorti pendant l'été et qui servait surtout à faire un genre d'hommage à Ice Age. Il y avait quelques cartes Phyrexian.
Je me rappelle, il disait qu'il voulait comme booker le set là, parce que le set c'était trois blocs
il manquait un troisième. Si tu passes à la suivante, ils avaient sorti là, une couple de trucs là, comme là, on avait le Urza Bubble, mais là ils ont fait le Mishra Bubble, qui est une version plus forte de l'autre de tantôt. C'est full joueur moderne. Là. Ça, c'est une carte de 20$ à cette heure. Puis c'est exactement ça. Là. C'est zéro, tu as sacrifié, tu piges une carte. Tu regardes la première carte du top de la librairie de l'autre et tu piges une carte à ton next upkeep. Puis tu vois le flavor text. Arkham is a babbling fool. Phyrexian technology is her greatest blessing. Take this delight trinket for instance. C'est Ida, Rhyme Windmaster, qui est un adnat là, qui trippe sur les Phyrexiens.
Ouais, ouais.
Qui fait partie des soldats. Ils avaient aussi fait Arkham en carte, qui est très joué en Commander. Trois colorless un bleu. Tu peux le taper pour target artifact. C'est ça, tu sacrifies un artefact. Un joueur sacrifie un artefact, puis il peut chercher dans sa librairie pour une non-creature artefact. Et tu sais, dans le fond, il fait un tinker. Là, ça permet de prendre comme ton Urza Bubble, puis le changer pour quelque chose de plus gros.
C'est quand même assez big.
C'est très fort. C'est pour ça que c'est beaucoup joué en Commander.
Ben oui.
Fait que ça, c'est, on voit les hommages là, au vieux set. Ou sinon, bon, tu avais le Barbette Sextant de Ice Age, qui est exactement ce que je vous dis. Là. Ça fait rien, Barbette Sextant. Là. C'est, tu payes un colorless, puis après ça, tu peux payer un colorless pour changer une couleur de mana vers une autre couleur de mana, et tu la remplaces en pigeant une carte.
Ouais.
Je dis, cette carte-là, en tant que telle, fait juste fixer ton mana. Elle a été refaite dans Modern Horizon 1 sous la forme de Arkham Astrolabe. C'est exactement la même affaire, mais un peu mieux. Sauf que faut que tu apprennes du mana snow pour le caster. Quand il rentre sur Battlefield, tu piges une carte puis il fixe son mana. Cette carte-là est bannie en moderne parce qu'il y a des gens qui ont trouvé des combos trop forts avec ça.
Ah, pour vrai?
Ouais. Through the time of ice has ended, its relics still slumber in New Argive. New Argive, c'est le nom du pays qui est, dans le fond, l'alliance entre la Balduvie et les Gjeldar. C'est devenu le New Argive. Vous allez voir beaucoup ce nom-là dans Dominaria United.
Argive.
Mais ça se passe quand, là, de Dominaria United par rapport au Ice Age?
C'est plusieurs siècles après. Là, parce qu'entre l'Ice Age et Dominaria United, t'as l'invasion phyrexienne qu'on va parler bientôt.
Ah oui, oui, oui.
Et plein d'autres affaires qui arrivent. Il y a notamment le Mending, qui est très important aussi. Passe à la suivante. Ça, c'est un exemple là, du deck en moderne. Là. Vous voyez, il jouait, on l'a vu les derniers épisodes, le Urza Lord High Arbiter, Artificer, qui faisait le même effet que le Tolarian Academy, là, que tu pouvais faire un nombre de mana bleu égal à ton nombre d'artefacts. Puis tu vois, il y a plein d'artefacts qui coûtent 0. 4 Mishra Bubble, 4 Arkham Astrolabe, qui coûtent 0 ou 1. Fait que ça, ce deck-là était capable de ramper beaucoup de mana, puis il faisait un loop avec Topter Foundry, puis l'épée. Le Sword of the Meek, puis là tu faisais Infinite de Topter qui attaquait, puis ça c'était le deck le plus fort en moderne en 2019. Hein? Ils ont banni Arkham Astrolabe parce que c'était trop fort, ça dominait tous les tournois, puis là ça a arrêté d'être bon, fait qu'on le voit plus vraiment. Mais ça l'a fait en sorte que Arkham Lord High Artificer était une carte vraiment jouée à l'époque.
Là. Urza,
excuse. C'est quoi, j'ai dit Mishra?
T'as dit Arkham.
Arkham, ouais, non.
C'est toute la même gang.
Puis bon, c'est ça. T'avais d'autres cartes là. Phyrexian Etching, 3 noirs. Cumulative, 1 noir. At the end of your turn, tu piges une carte pour chaque cumulative upkeep que t'as payé. Puis s'il va dans le graveyard, tu perds 2 de vie pour chaque cumulative upkeep que t'as payé.
C'est pas payé ça.
C'est vraiment le fun. Ouais, le Phyrexian Soul Gorger, 3 colorless pour un 8-8. Ça fait référence à le Phyrexian Warbeast de tantôt.
Ouais.
C'est-à-dire un mana cost vraiment bas. Son cumulative upkeep, faut que tu sacrifies des créatures. Un peu dans le style à la l'Eshrak Minion là, qu'on a vu tantôt.
Ouais. Ben, y a même un peu le look aussi.
Ouais. The Phyrexian Mind that constructed did not live past its awakening. Fait que c'est ça, c'est des cartes hommages. Puis l'ultime hommage, c'est dans Dominaria, ils avaient fait la saga de Time of Ice, qui faisait des Icy Manipulator pendant 2 chapitres. Et à la fin du chapitre, ça retournait toutes les créatures tapées dans la main. Puis le artwork, c'est plein de cartes du set. On voit en fait là, tu vois les Balduviens à droite, les Gjeldar à gauche. Il y a Maritlage en bas avec les tentacules.
Puis il y a Jaya.
Puis Jaya est dans la cartouche, puis Joda dans l'autre à droite. Il y a plein d'affaires. Le cadavre, c'est l'Imdul. Ben, c'est des zombies de l'Imdul. Tu vois, il y a plein de cadavres dans la neige. Ah. Tu peux te promener longtemps. Là. Les Gjeldar, ils ont fait des Sky Knights, là, qui étaient des bonhommes des aigles géants.
Des Pegasus.
Ouais. Tu peux t'amuser longtemps sur cette carte-là. Là. Moi, je vous encourage. Là. Ouvrez, je vais le mettre dans les commentaires de la description de l'épisode. Ouvrez les cartes de Ice Age, puis tu compares avec les dessins qu'il y a sur Time of Ice. Et ça finit plus. Là. Je pense qu'il y a comme 20 cartes qui fait référence juste sur cette image-là. C'est quand même vraiment awesome.
Non, jump packet de l'info. Ouais.
Faut finir sur nos Planeswalkers. Freyalize a été réimprimé dans, je pense que c'est Commander 2015 et dans Dominaria. Freyalize, ils l'ont fait en Planeswalker. Dans le fond, c'est une elfe Planeswalker. Puis tu vois, elle fait des druides 1-1 que tu peux taper pour faire du mana vert. C'est tout le temps la gimmick de Freyalize, c'est les Llanowar War Elf. C'est vraiment simple. Tu vois, la Song of Freyalize, qui est la saga, pendant 2 chapitres, toutes tes créatures deviennent des Llanowar War Elf. Tu peux les taper pour faire du mana. Puis après ça, tu mets des counters +1/+1 sur chaque créature. Ils ont Vigilance, Trample et Indestructible until end of turn. Fait que tu sais, dans le fond, c'est dans des decks d'elfes, là, que t'as plein d'elfes 1-1. Tous ceux qui ont joué dans des decks d'elfes, hein, Tommy?
Oh, depuis que tu parlais d'elfes.
Ça chie plein d'elfes.
OK.
Freyalise, elle a mis fin au Ice Age, fait que c'est important dans l'histoire. Et aussi, quand il y a eu les événements du Mending, elle s'est sacrifiée. Fait qu'elle n'existe plus, elle n'est plus dans le storyline. Elle s'est sacrifiée son Spark, elle a enlevé son Spark, elle l'a donné à Teferi et sa gang pour qu'il répare Dominaria dans le Mending.
Fait que qu'elle l'aime, Dominaria.
Ben oui. Puis, ouais, c'est la
première deux fois.
Mais on va revoir Freyalise quand je vais couvrir l'invasion phyrexienne. Parce qu'elle était une des Planeswalkers vraiment actives aux côtés d'Urza pour combattre les Phyrexiens.
Dominaria.
Et le dernier Phyrexien, Planeswalker qui a été imprimé en carte, c'est Tevezjat, Doom of Fool. 4 colorless, un noir. Lui, c'est le fun, il vient de Sapardia. C'est un Planeswalker qui vient de Sapardia. Qui est où ce qu'il y a les Fallen Empire. La chute des empires, est-ce qu'il a starté son Spark? Fait que là, tu peux payer plus 2, il fait des trulls. Et tu peux payer plus 1, tu sacrifies une créature, dans le fond, un trulls, pour piger 2 cartes. Puis tu piges une carte si la créature sacrifiée est un commander. Puis tu peux payer moins 10, tu prends contrôle de toutes les commanders. Parce que Tevezjat, c'est tentacule, c'est un grand manipulateur. Ouais. Tu vois, tu peux contrôler tous les commanders dans les command zones. Attends, c'est from the command zone
to the battlefield. Ouais, tu prends tout. Même s'ils sont dans le command zone, ils s'en viennent.
Vraiment le fun. Là. Fait que ça, c'est Tevezjat. On va le revoir aussi dans l'invasion phyrexienne. Tevezjat a un problème avec les phyrexiens, c'est qu'il n'est pas capable de les contrôler. Fait qu'il va s'aider avec Urza. Puis, je vous vends pas comment il meurt, mais ça vaut la peine. C'est un des points forts de l'histoire de cette invasion.
OK. Fait que c'est la fin de l'épisode, là. Les
on a bouclé l'Ice Age. Ça,
c'est du buffer. Buffer,
puis quand je vais monter la vidéo.
Ça. OK, parfait. Bon, ben écoutez, on va dire un gros merci à Jason qui nous a amené. Vas-y, dis merci.
Merci, Jason.
C'est beau,
merci.
Joe. On dit merci à Jason. C'est très intéressant, ces dossiers de lore-là. C'est le fun parce que ça me ramène 25-26 ans dans le passé quand on jouait à Ice Age. Voilà, donc merci Andy aussi d'être passé.
Un plaisir.
Écoutez, ce qu'on va faire, c'est remercier Martin Godette qui s'occupe du montage, remercier Bone qui s'occupe des beats et remercier tous les amis de Terrain Basique qui nous aident à rendre la page Facebook et la communauté vivante et stimulée. On va vous laisser avec un petit dernier beat à Bone en vous invitant à aller sur Spotify pour seulement du podcast. Allez pas checker des albums de musique. Spotify, c'est Satan. On est là-dessus pareil. Et sinon, c'est podcast.com, Radio H2O. Et je pense que mon nom est Tommy Godette. Et à moins que quelqu'un ici voit une opposition, je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible.
H2O Web Media.